VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 13h à Libreville. Bienvenue à notre journal. Au Gabon, reprise des activités dans un calme précaire après plusieurs jours de paralysie totale due aux violences accompagnées du pillage massif qui ont suivi l'annonce contestée de la réélection du chef de l'État Ali Bongo Ondimba à la présidentielle du 27 août. Internet a été partiellement rétabli aujourd'hui à Libreville après 5 jours de coupure totale, mais les réseaux sociaux restent inaccessibles d'après l'AFP. L'on continue aussi de s'interroger sur le sort des personnes arrêtées après les émeutes de la semaine dernière. Le point avec Jean Rovis Dabani, notre correspondant à Libreville.
Le chef de l'État sud-soudanais et une délégation du Conseil de sécurité en visite à Djouba ont publié dimanche un communiqué conjoint dans ce sens. 4000 casques bleus fournis par divers pays africains seront chargés de sécuriser la capitale sud-soudanaise et de protéger les civils. Ils auront un mandat plus robuste que celui des 12 000 soldats de la mission de l'ONU au Soudan du Sud, la MINUS, qui ont été critiqués pour n'avoir pas été capables de protéger la population lors des violents affrontements de juillet entre la garde rapprochée de l'ex-vice-président sud-soudanais Riek Machar et les troupes loyales au président Salva Kiir. Pour l'heure, le calendrier du déploiement des nouvelles troupes internationales n'est pas connu. La délégation du Conseil de sécurité de l'ONU a visité samedi un camp de déplacés dans la capitale sud-soudanaise. C'était l'occasion de voir les conséquences humaines de l'échec des leaders politiques à rétablir la paix dans leur pays, a déclaré l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Samantha Power.
Il s'agissait de Timothy Donangmaï qui nous parlait de la situation au Soudan du Sud. Revenons maintenant à ce qui se passe au Gabon, pour voir ce que pense la population de la victoire d'Ali Bongo et des violences qui ont suivi. Notre envoyé spécial Idriss Fall a tendu son micro à des Gabonais qui, pour des raisons évidentes, ont voulu garder l'anonymat.
La victoire a été volée parce que le peuple gabonais en a marre. Et nous sommes fatigués de la famille Bongo. 50 ans au pouvoir, c'est trop. Le Gabon pourri, le Gabon coupé dans la pauvreté. Ali ne fait que s'enrichir avec ses amis. Nous ne voulons plus de ça.
Une grossière erreur de l'opposition, une grossière mascarade du pouvoir en place. Et après, on sait qu'il n'y aura pas de recomptage. On est parti pour 7 ans de souffrance encore. Moi, j'ai le sentiment que ça va faire mal. Ça va vraiment faire mal parce qu'on est en face des gens qui sont rancuniers, des gens qui sont méprisants, des gens qui sont orgueilleux.
Il y a eu révolte tout simplement parce que les gens se sont rendus compte que la victoire du président Ping a été volée. Mais comme ça se passe en Afrique, tout ce que nous pouvons demander c'est d'arrêter de tuer le peuple. Parce que c'est ce peuple-là qu'il va commander demain. Donc il ne faut pas qu'on puisse tuer ce même peuple et se retrouver pour qu'il y ait la paix. Nous voulons la paix.
Si les urnes ont parlé, les urnes ont décidé que c'est Ali Bongo qui a gagné, car cela nous tienne, même si évidemment on a parlé de fraude. Et le verdict est tombé, alors nous ne pensons plus aux élections. Nous devons passer à demain, que nous devons reprendre le boulot et que la vie continue.
Tout à fait, on est vraiment stupéfait et très sensible à la victoire d'Ali. En tout cas, quand on ne sait pas ce qui s'est passé, nous. On sait que la victoire ça a été donnée par la Sénat, c'est la voix du peuple. Et la voix du peuple, c'est ce qu'on doit respecter, c'est tout. Mais en tout cas, nous on est dans le quartier, mais nous ne sommes pas inquiets, ça va, ça marche.
C'était des réactions de Gabonais aux violences dans leur pays après les élections du 27 août. Des propos recueillis par notre envoyé spécial Idriss Fall. On passe maintenant en Zambie, rejet par la Cour constitutionnelle zambienne ce lundi du recours formulé par le candidat malheureux de l'opposition Hakainde Hichilema contre la réélection de justesse le 11 août et dès le premier tour de son rival, le président sortant Edgar Lungu. Ce recours ne sera pas examiné par la Cour, a indiqué dans un jugement la juge Anis Itali après l'expiration vendredi dernier du délai légal de recours de 14 jours. Et puis en Afrique du Sud, partisans et adversaires du président sud-africain Jacob Zuma se sont retrouvés aujourd'hui lors d'un face-à-face tendu à Johannesburg devant le siège du Congrès national africain, l'ANC. Un nouvel épisode des divisions qui agitent le parti au pouvoir. Les militants de l'ANC hostile à M. Zuma ont voulu forcer l'entrée du quartier général du mouvement, mais on a été tenu à distance par un imposant dispositif policier et un cordon de défense du chef de l'État. Jacob Zuma est de plus en plus contesté au sein de l'ANC en raison notamment de la persistance de la pauvreté au sein de la majorité noire plus de 20 ans après la fin de l'apartheid. On retourne maintenant à la crise au Soudan du Sud. L'intense pression internationale a fini par avoir raison de la réticence du président sud-soudanais Salva Kiir, qui a finalement accepté l'envoi des casques bleus supplémentaires dans son pays. Les précisions de Timothée Donormaille.
Le chef de l'État sud-soudanais et une délégation du Conseil de sécurité en visite à Djouba ont publié dimanche un communiqué conjoint dans ce sens. 4000 casques bleus fournis par divers pays africains seront chargés de sécuriser la capitale sud-soudanaise et de protéger les civils. Ils auront un mandat plus robuste que celui des 12 000 soldats de la mission de l'ONU au Soudan du Sud, la MINUS, qui ont été critiqués pour n'avoir pas été capables de protéger la population lors des violents affrontements de juillet entre la garde rapprochée de l'ex-vice-président sud-soudanais Riek Machar et les troupes loyales au président Salva Kiir. Pour l'heure, le calendrier du déploiement des nouvelles troupes internationales n'est pas connu. La délégation du Conseil de sécurité de l'ONU a visité samedi un camp de déplacés dans la capitale sud-soudanaise. C'était l'occasion de voir les conséquences humaines de l'échec des leaders politiques à rétablir la paix dans leur pays, a déclaré l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Samantha Power.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Mali, limogeage du ministre de la Défense et des anciens combattants Tiémanu Béor Koulibaly. Il a été remplacé par Abdoulaye Idrissa Maïga, précédemment ministre de l'administration territoriale. Plus de détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Le limogeage du ministre de la Défense et des anciens combattants peut avoir plusieurs raisons. Mais la plus récente n'est autre que la prise de la localité de Boni dans la région de Mopti par les assaillants. Avant Boni, il y a eu l'attaque de Nampala, les scandales de détournement des primes des militaires par la hiérarchie, les malaises chez les troupes, tout cela sans oublier le fait que le ministre de la Défense n'a pas pu avoir une carte sécuritaire du Mali et de définir une stratégie militaire de défense cohérente face aux enjeux. Toutes ces insuffisances ont fini par avoir raison du ministre de la Défense qui a été renvoyé du gouvernement le samedi dernier. C'est dire aussi que la tâche ne sera pas facile pour son successeur, Ablaye Idrissa Maïga, qui n'aura plus droit à l'erreur. Jusque-là, Tiémanu Koulibaly avait résisté à tous les remaniements ministériels. C'est là de la transition de 2012 à nos jours. A rappeler tout simplement que les militaires maliens et gendarmes sont de retour dans la localité de Boni qui avait été occupée par les assaillants. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Sommet du G20 à Hangzhou, dans l'est de la Chine, les dirigeants des plus grandes économies développées et émergentes du monde se sont accordés pour s'opposer au protectionnisme. C'est ce qu'a déclaré ce lundi le président chinois Xi Jinping à l'issue d'un sommet des plus grandes économies de la planète. Nous sommes tombés d'accord pour soutenir le système d'échange commerciaux multilatéral et nous opposer au protectionnisme, a déclaré M. Xi lors d'une conférence de presse concluant deux journées de réunion. Présidentielle américaine 2016, le républicain Donald Trump a visité au cours du week-end une église de Détroit où il a réitéré son appel en direction des électeurs noirs. Le point avec Timothée Donormaille.
Face aux accusations selon lesquelles Donald Trump exhorte les noirs à voter pour lui, alors qu'il s'adresse surtout à des foules composées en majorité de blancs, Trump a assisté à un service religieux dans une église de Détroit, ville à 83% noire. C'est la première visite qu'il effectue dans une église africaine-américaine, a tenu à souligner l'évêque Wayne Jackson, qui a présenté le candidat républicain à ses ouailles. Pour sa part, Donald Trump a assuré les fidèles être venu les écouter et aussi présenter son plan économique, qui, a-t-il dit, sera bon pour Détroit. Il a affirmé que la nation a besoin d'un agenda des droits civils pour notre époque. Alors que le candidat républicain s'exprimait dans cette église de Détroit, des manifestants s'étaient mobilisés à l'extérieur pour dénoncer sa visite. Il représente la politique de la peur et de la haine, et les minorités en tout genre ont tout à perdre en misant sur une telle personne, a déclaré le pasteur Lawrence Glass, une des personnes critiquant Donald Trump.
Côté Parti démocrate, le FBI et la police fédérale ont publié les documents relatifs à son enquête concernant les emails de la candidate démocrate Hillary Clinton du temps où elle était secrétaire d'État, soit chef de la diplomatie américaine. Plus de détails dans notre prochain bulletin et la couverture de la campagne présidentielle. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.